Les Cascodeurs Podcast, épisode 250, spécial Loi, Société et Organisation avec Agnès Crépé et Tariq Krim, deuxième partie, enregistré le 5 février 2021.
Petit détail sur la plateforme SolarWinds Orion, dont on parle justement. Donc c'est une gestion, un système de gestion de réseau, de monitoring, de management et de sécurisation d'infrastructure. Et en fait, SolarWinds a été victime d'une attaque de chaîne d'approvisionnement, supply chain, comme on dit en anglais, et où des gens ont réussi à installer du code AE dans la codebase de Orion. Et du coup à utiliser le protocole de mise à jour de d'Orion et du coup déployer ce malware en fait chez beaucoup des clients de SolarWinds avec une attaque assez sophistiquée et assez ciblée sur lequel les choix des cibles la solution était désinstallée ou non active chez les clients qui n'intéressaient pas l'attaquant. Voilà. Après les attaquants, je sais plus 1800 ou quelque chose comme ça. Donc c'est très très large, des gros, du Boeing, du Microsoft, beaucoup d'agences gouvernementales. Voilà, c'est pour ça que ça a fait tout un pataquès. Et sur la source de la faiblesse de leur chaîne d'approvisionnement, est-ce que c'était une erreur de leur côté? Est-ce que c'était une erreur justement d'un de leurs fournisseurs? Ça c'est pas du tout établi. JetBrains à un moment a été mis en lumière avec je crois que c'est TeamCity, une source anonyme, enfin bref, une analyse d'un journal américain qui expliquait que JetBrains pouvait en être la cause. JetBrains a démenti avec un peu de détails et pour l'instant il n'y a pas eu de suite à cette information. Donc en fait oui, et on parle aussi peut-être des bureaux en Europe de l'Est de SolarWinds une source potentielle. Voilà, bref, il y a en gros rien de confirmé sur comment SolarWinds a été piraté, et puis on sait que les attributions sont toujours difficiles. Là-dessus, d'ailleurs, vous pouvez écouter l'épisode de No Limits Sécu sur SolarWinds, justement parle de l'état de l'attaque de supply chain et ce que l'on sait aujourd'hui. Voilà, alors ça c'est ce qu'on sait au jour d'aujourd'hui, j'imagine que ça évoluera au fur et à mesure de 2021.
Je pense qu'on peut aborder justement le deuxième grand thème de cet épisode, qui est ce qu'on a appelé la déplateformisation de Trump. Donc vous l'avez sûrement vu, mais suite aux événements au Capitole, donc le compte officiel de Donald Trump et 70 000 comptes qui étaient affiliés à QAnon ont été supprimés de Twitter. Quand même une petite nuance à apporter, c'est que Twitter a attendu la fin du vote du Congrès pour activer la procédure. Et puis, alors c'est intéressant parce que il y a eu un effet domino. Donc derrière, on a vu le même mouvement sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur Snapchat, Twitch, Spotify, Shopify, qui permettait à ces mouvances de vendre du merchandising, etc. Et donc dans un mouvement de repli désespéré, Trump a d'abord essayé de se servir du compte officiel de la Maison Blanche. Les tweets ont été supprimés au motif que ça enfreignait les règles d'utilisation. Et donc, il s'est replié sur une application qui s'appelle Parler, qui était majoritairement utilisée par l'alt-right. Et l'application s'est vite vue retirée des stores, Google et Apple, mais également s'est fait virer d'AWS. Donc, plus d'hébergement, ce qui a résolu le problème. Effectivement, il y a plusieurs réactions qui sont assez intéressantes, notamment dans les réactions de Jack Dorsey, donc le CEO de Twitter, où il dit qu'ils envisagent peut-être un modèle décentralisé. Alors, spoiler alert, Jack, ça existe déjà, ça s'appelle Mastodon. Mais il y a eu d'autres choses intéressantes à observer suite à cette déplateformisation. Je trouve ça horriblement dur à dire. Il faut qu'on trouve un autre mot. D'abord, c'est qu'on a vu une chute de la désinformation dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire que ça a été constaté par des chercheurs. Ça a baissé de 95% après le bannissement. Donc, ce qu'ils ont observé finalement, c'est qu'il y avait très très peu de comptes à la source, c'est-à-dire qu'il y a une vingtaine de comptes conservateurs, dont celui de Trump, mais qui sont qualifiés de super spreader, et donc ceux-là sont massivement repartagés, quel que soit le sujet. Et l'autre chose qui est extrêmement intéressante, c'était de voir les politiques du monde entier qui tout d'un coup réalisaient que les outils qu'ils utilisent depuis 10 ans pour communiquer avec nous et faire leur campagne, etc., eh bien, ne leur appartiennent pas. Alors, Agnès, t'avais quelques questions là-dessus.
Ouais, ben il y a plein de questions. Hein. C'est vrai que c'est un sujet qui est quand même. Mais tu vois, juste sur pour revenir sur un des aspects de ce que tu as dit à AWS. Ouais, la première question qu'on peut se poser, c'est les services cloud, est-ce qu'ils ont un droit de regard sur la façon dont une application est gérée, sur les contenus d'application, tu vois? C'était une des premières questions que je me posais.
Ouais, et l'autre question, c'est combien de boîtes savaient qu'il y avait dans les conditions générales d'utilisation d'Amazon cette fameuse clause?
Ouais, carrément, ouais. Et après, qu'est-ce qu'on fait après, quoi? Tu vois, bon, parleur, voilà, sans parler de parleur et de l'alt-right, etc. Comment tu fais pour garantir le fait que, voilà, tu peux avoir un contenu que toi tu choisis, quoi? Après, Tariq, toi, je t'ai entendu parler j'ai entendu réagir suite à ça, et tu fais le lien sur le point de vue géopolitique, quoi. Voilà, comment on voit Internet demain? On est parti d'un Internet libre il y a 20 ou 30 ans, il y a 10 ans les réseaux sociaux c'était la révolution arabe. Aujourd'hui, c'est voilà, c'est tout ce phénomène-là, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Total?
Non, mais tu as tout à fait raison. Hein. Il y a quelques jours, j'ai vu un documentaire fantastique qui a d'ailleurs, il n'a pas été déplatformisé, mais il n'a pas été mis en avant par aucune des plateformes commerciales, alors que son réalisateur a eu un Oscar lors de son précédent documentaire Icarus. Le documentaire en question, c'est The Dissident. Et ce qui est fascinant, donc, c'est sur la mort de Jamal Khashoggi, le dissident saoudien. Le documentaire est assez brillant parce qu'il explique pourquoi il a été assassiné, et surtout il explique toute la manière dont les révolutions arabes, quand les révolutions arabes sont arrivées, il faut rappeler quand même, c'était il y a 10 ans, hein, justement, ces deux dernières semaines. C'est que on a deux dirigeants, à savoir la Tunisie et l'Égypte, qui sont tombés en moins d'un mois ou en moins de 2 mois, et donc toutes les autres, tous les autres pays arabes ont flippé, pour ne pas dire flippé énormément, et donc ont financé toutes les contre-révolutions, notamment les islamistes dans tel ou tel pays. Et l'Arabie Saoudite a une présence sur Twitter assez incroyable. D'ailleurs, on apprend comment l'Arabie Saoudite a hacké l'iPhone de Jeff Bezos, donc et possiblement d'autres iPhones d'ailleurs de gens importants. Mais à travers cette guerre, je me suis rendu compte que Twitter était devenu l'espace de bataille géopolitique. Et le problème, c'est qu'on travaille sur un espace géopolitique qui n'est pas neutre, puisque de toute façon, qu'on le veuille ou non, c'est probablement d'ailleurs pour ça que Jeff Bezos a, entre guillemets, quitté son poste de CEO. Quand on est patron d'une boîte américaine, si le Congrès vous appelle pour telle ou telle chose, vous êtes obligé d'y aller et d'être présent, tout simplement parce que votre passeport est de la nationalité du Congrès qui vous réclame. Et en France, on est en train de comprendre, en fait, qu'on n'a pas de plan B, parce que il y a la déplatformisation de Trump, mais il y a aussi la déplatformisation de Huawei, qui, je vous rappelle, ne peut plus travailler avec Google, lance son propre OS, Harmony, n'a plus accès aux puces de TSMC. Donc, en gros, Huawei est passé de premier fabricant mobile à 7e cette année. Il y a la déplatformisation de l'Iran, où on leur a dit du jour au lendemain que les développeurs iraniens n'avaient plus accès à GitHub, n'avait plus accès à plein de choses, parce que ce qu'on découvre, c'est que toutes les licences, le logiciel libre, c'est fantastique, hein. Je suis un soutien utilisateur depuis le début, mais aujourd'hui, le logiciel libre appartient à des fondations de droit américaines sur laquelle le droit à l'export, peut être limité par des executive orders à l'époque Donald Trump et de maintenant Biden. Et on peut se poser la question, pourquoi le web, Linux, qui sont des inventions européennes, faut-il le rappeler, se sont désormais retrouvées dans des postures où elles appartiennent à des fondations de droit américains et donc, encore une fois, limitées à l'export. Et donc, ce qu'on est en train de voir, c'est que d'un point de vue géopolitique, juridique, alors évidemment le Cloud Act avec le Health Data Hub qui héberge les données de santé chez Microsoft, enfin il y a la BPI avec Amazon, on se rend compte en fait que on vit sous l'épée de Damoclès d'une déplateformisation, soit juridique, soit technologique, permanente. Et je pense que nos gouvernants n'ont absolument pas bien estimé le coût de la souveraineté, essentiellement si tu te fais... parce que si on vire Trump, on peut virer n'importe qui de Twitter. Et si on vire Parler, on peut aussi virer n'importe qui d'Amazon Web Services.
Ouais.
Ou d'Apple, ou de Google Play, etc., etc.
Juste toute micro aparté, donc GitHub, justement, c'est du début de l'année, je crois, justement, a restauré ses services en Iran, mais parce que le gouvernement américain a modifié son approche de sanctions. Donc, je crois qu'ils ont réouvert l'accès à GitHub aux développeurs iraniens. Mais bon, ça veut pas dire que ça peut pas repartir, justement.
Et ça imagine maintenant, arbitraire. Ouais. Remplace développeur iranien par développeur français. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi notre plan B?
Bah, on n'a pas de fonderie, mais on a des idées.
mais tu sais que la Chine est en train de refaire un certain nombre de logiciels libres from scratch dans une, dans une logique, alors je sais pas que c'est ce qu'il faut faire, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut reprendre l'approche. Et ça, c'est une chose que les défenseurs du logiciel libre doivent aussi prendre en compte. Sinon, leur message ne sera pas aussi optimal qu'ils le souhaitent. De remettre tout ça dans un contexte géopolitique, parce que évidemment le code source, avoir accès au code source, c'est super, mais si le code source est restreint non plus par la licence elle-même, mais par le droit à l'exportation du pays dans lequel elle a été affiliée, ça pose c'est-à-dire que le logiciel devient un logiciel semi-libre ou potentiellement libre, et donc il y a un vrai sujet qu'il faut, enfin une d'une certaine manière, l'affaire Trump nous oblige à nous poser des questions qu'on n'avait pas voulu voir depuis 10-15 ans, ou qu'on ne voyait que dans le... Vous savez que l'ICANN et les noms de domaine, le fait que la centralisation de nos domaines soit aux États-Unis, etc. Mais à part, je crois, pendant la guerre en Irak où on avait enlevé le nom de domaine irakien, il n'y a pas de précédent. Mais aujourd'hui, honnêtement, depuis Trump et puis depuis ce qu'il a fait, pour moi, il n'y a aucun scénario qui n'est pas... tous les scénarios sont plausibles, voilà, c'est ça.
Et on parlait tout à l'heure de la réaction des gouvernements, et si on parle du gouvernement français, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de réactions du gouvernement français suite à cette histoire, faut pas oublier que le gouvernement français, il a été l'un des promoteurs de la déterminisation de France, et il parle d'un pouvoir trop important dans l'hierarchie numérique, mais est-ce que ce serait pas un peu... moi, je pense que c'est contradictoire, mais est-ce que c'est pas un peu trop tard? Sa réaction, je veux dire, la réaction des personnes du gouvernement français.
C'est un peu l'arroseur arrosé, c'est-à-dire que déjà le problème, c'est que tout ce qu'on fait est désormais phagocyté par l'élection présidentielle, c'est-à-dire que même si on pense que le réseau n'aidera pas un parti plus qu'à un autre d'émerger, la censure d'un des acteurs peut permettre à un parti d'émerger. Donc en fait, d'une certaine manière, c'est une question qui intéresse tout le monde. Donc, on parle de la loi Avia, du séparatisme, plein de choses, mais fondamentalement, la capacité à étouffer certains narratifs et à amplifier algorithmiquement d'autres narratifs, c'est ça le problème auquel on ne veut pas voir. C'est que aujourd'hui, l'amplification, qui est un choix. Parce qu'on dit toujours l'algorithme, mais bon, je sais que vos auditeurs savent que derrière l'algorithme, il y a des gens qui codent. C'est-à-dire que l'algorithme n'est pas une entité à part entière qui sort de nulle part. Ce sont donc des décisions qui ont été prises par des gens, qui sont souvent des décisions de qualité. Enfin, quand je dis de qualité, c'est qu'elles sont prises en connaissance de cause, parce qu'on a mesuré l'impact. On se rend compte que quand on amplifie certains produits toxiques, l'engagement augmente. Et si le patron de Twitter, de Facebook dit « je veux que l'engagement augmente de 10% chaque mois parce que mon indexation en bourse est basée sur l'engagement », on l'oublie, mais une grande partie des décisions qui ont été prises sont liées au fait qu'il faut que les revenus montent, parce qu'on est aussi dans un monde où on a considéré que l'exploitation du cerveau des 3 milliards d'internautes qui sont sur des téléphones mobiles est infinie. Or, on c'est comme pour les ressources de la Terre, ça n'est pas vrai. Et on en voit l'impact aujourd'hui sur la civilisationnelle. Et donc, il y a le gouvernement français, à mon avis, a fait plusieurs erreurs. Enfin, entre autres, hein, parce qu'il y a un autre problème dont on n'a pas parlé, mais c'est qu'il ne croit pas dans le savoir-faire français en numérique. Pour eux, on a perdu, c'est surtout avec ce gouvernement, c'est les big tech qui savent faire parce qu'ils mettent de l'argent et que l'argent est la seule valeur aujourd'hui que l'on a. Quand Cédrico va expliquer devant la représentation nationale que nous, les Français, donc tous les gens et tous vos auditeurs, on est des nuls parce que en fait, Amazon dépense 20 milliards et alors qu'il ne sait même pas ce que font tous les acteurs français dans le domaine puisqu'il les a jamais vus, puisque si on ne lève pas des fonds, on n'est pas visible de ce gouvernement. C'est-à-dire que l'idée de travailler dans des PME, de travailler dans des fondations, de travailler dans des universités, de travailler dans des domaines qui ne sont pas juste les startups et les grands groupes français, ça n'existe pas pour eux. Et donc, ils passent à côté de ce que j'appelle un peu l'âme numérique de la France, c'est-à-dire tous ces gens, développeurs, ingénieurs, tous les gens qui sont géniaux et qui font des choses. Et donc, comme ils ont ces œillères, pour eux, la relation qu'ils ont par rapport à toutes ces plateformes, c'est une relation de consommateurs. C'est-à-dire qu'ils ne se sont même pas acteurs. Ils se disent parfois, on peut être un peu régulateur, on va leur dire ne faites pas ça, mais ils ne savent absolument pas comment ça marche. Quand on parle, vous savez, de Pharos, les outils d'aide, en fait, ce qu'il faut, c'est que la justice française ait accès à les API. Donc, il va falloir développer ces API pour accéder au contenu. Parce que moi, je suis pour que ce soit la justice et non pas l'arbitraire d'une plateforme ou l'arbitraire d'un gouvernement qui décide ce que l'on doit faire sur les réseaux. Je pense que c'est très important.
Le problème qu'on a en France... tu trouves pas que c'est pas un... Enfin, je suis hyper d'accord avec toi et c'est pas plutôt un échec de la justice ou de la rapidité de la justice justement que ces plateformes doivent devenir jugées parties?
Non, parce que en Europe, mais en France notamment, on a un problème, c'est que quand on n'a pas les budgets nécessaires et qu'on décide à un moment donné que, et c'est d'ailleurs un des problèmes, hein, qui est un problème aussi qui à mon avis à la base de la montée du Front National, de la montée du fait qu'il y a une sorte, on nous parle toujours d'impunité, on nous parle toujours de nouvelles lois sécuritaires, mais la réalité, c'est que la justice n'a pas les moyens informatiques. Quels que soient les problèmes, il faut attendre 2 ans, 3 ans, on a un système bureaucratique complètement délirant, et notamment sur ces questions. À un moment donné, si on met pas les moyens techniques pour devenir spécialiste, donc embaucher des vrais développeurs, embaucher des gens pour faire les produits qui vont bien, qui savent mettre en place tout ça, on sera toujours dans une logique de course, d'être en permanence en retard d'une bataille. Et au contraire, je pense que le sujet que nous pose la question du numérique, c'est aussi le fait que si on veut des services publics de qualité, il faut y mettre les moyens, alors à la fois en argent, mais aussi en utilisant les bons logiciels. Il faut qu'on arrête de payer des fortunes en licence logicielle quand on peut utiliser des logiciels custom développés, ce qu'a fait d'ailleurs la gendarmerie très bien, hein, qui est un peu pour moi le bon exemple de ce qu'il faudrait faire, et qui d'ailleurs est une institution qui marche bien, hein, d'un point de vue tu peux parler des flics, tu peux parler des professeurs, tu peux parler de tout le monde. Tout ce que les gens te disent, les médecins, c'est nous sommes dans une machine bureaucratique catastrophique. On est perdu dans des logiciels des années 90, sans queue ni tête. Et quand on te dit il faut moderniser le pays, ils te disent ah oui, on va tout passer sur Amazon ou sur Google. Alors que le vrai sujet, c'est de mettre les bonnes personnes. Si tu mets que des nuls ou des gens, enfin, je vais pas dire le terme de nul, mais des gens dont ce n'est pas forcément le bon endroit. On a mis des gens un peu partout qui sont pas vraiment du genre du numérique, qui grenouillent à gauche à droite, qui connaissent pas grand chose, qui sortent des buzzwords, mais qui n'ont jamais vraiment codé. Et si on met pas les bonnes personnes, donc je reviens à mon rapport sur les développeurs, si on met pas des vrais gens, qui savent de quoi ils parlent au cœur de la décision, pas au N-10 ou dans les sous-sols, ou en les traitant comme si c'était juste des pisseurs de lignes, alors que ce sont des gens qui ont une réflexion sur les workflows, sur la façon dont on va optimiser des données, réduire les processus administratifs. Tant qu'on n'aura pas ça, on continuera à avoir un problème. Et pour moi, les réseaux sociaux montrent en fait la faillite du modèle. Mais comme la pandémie a montré, tu parlais tout à l'heure de Zoom, on a utilisé quoi? Zoom, Teams, on n'est pas foutu en France de mettre en place une plateforme c'est pas qu'on n'est pas fichu de le faire, c'est que les gens qui sont en place ne veulent pas utiliser des services français, utiliser des hébergeurs français pour payer des gens pour faire quelque chose de qualité. En fait, on a toujours le même problème, c'est qu'on est, à la traîne parce qu'on ne met pas les bonnes personnes qui ont le savoir-faire adéquat pour faire tout ça. Et les réseaux sociaux, ça n'est qu'une, une des preuves que si on avait un service efficace, si on avait des API, si on avait des gens qui parlent à Twitter, qui savent de quoi ils parlent, des vrais tech, on n'aurait pas les mêmes discussions qu'on a aujourd'hui où en fait on a des gens qui en permanence disent il y a des problèmes de haine en ligne, de machin, mais ils savent même pas. On est encore à la discussion sur l'anonymat sur Internet, alors qu'on sait très bien qu'on est dans le régime du pseudonymat et que les adresses IP sont... Donc, on n'avance pas, en fait.
Moi, je suis assez d'accord avec toi que se pose la question plus globale de l'emploi qualifié en France, des élites, de qui tu mets dans certaines institutions. Mais ce que je trouve intéressant avec toi, Tarek, c'est qu'à un moment donné de ta vie, tu as fait partie du Conseil national du numérique. Ouais. Donc la question que j'aurais, c'était quoi pour toi cette expérience? Parce que tu as eu accès à ça, en tout cas, t'as cité aussi des exemples auparavant où tu as eu des influences réelles sur certaines personnes en place au gouvernement, en tout cas des députés, etc. T'en es où par rapport à ça personnellement? En fait, est-ce que c'est toujours quelque chose que tu veux faire? Est-ce que tu l'envisages différemment? Est-ce que ça a été une expérience compliquée pour toi, le Conseil national du numérique?
Ouais, ça a été difficile. Hein. Ça a été à un moment donné, j'ai même pensé démissionner. Ça, je crois que je l'avais jamais dit, mais et puis je suis resté parce que finalement, moi, j'avais Tristan Ossinito, quelques personnes que je connaissais bien. Je me disais, c'était en fait, ça servait juste de parade. Quand il y a eu l'histoire du, vous rappelez la loi sur la programmation militaire
Oui.
Voilà. Voilà, les accords avec Cisco. On a mis quand même John Chambers, le patron de Cisco, qui est quand même au cœur de l'État profond américain. Ambassadeur de la French Tech, à ce moment-là, je me suis dit, en fait, tout ça, c'est un peu de la blague. Les gens sont pas sérieux. Les gens du CNUM qu'on avait, en plus, c'était d'ailleurs la seule organisation qui était purement, qui était 15 hommes, 15 femmes. Tu vois, c'était vraiment... avec une chose que j'ai remarqué aussi qui m'a un peu gêné, c'est que évidemment c'était toujours les femmes qui faisaient les rapports et les trucs super... notamment sur l'éducation, et puis c'était certaines personnes qui partaient en
papier, mais...
voilà et qui partaient en courant montrer les rapports et qui en tiraient les honneurs. Moi, ça m'a toujours un peu gêné. Je le disais pas aussi ouvertement avant, mais là j'aurais peut-être pas dû le dire, mais je le dis comme ça. C'est que il y a eu énormément de travail, de réflexion, mais qu'à la fin, au cœur de cette, on a une élite qui pense. Je vais le dire différemment. Aujourd'hui, on a trois types de profils quand on fait des projets informatiques. On a les builders, dont j'espère faire partie. Un problème, je vais réfléchir à comment je le fais. Par exemple, si on me posait la question comment faire stop Covid, j'aurais fait les choses vraiment différemment et je me serais entouré de gens différents. Il y a ensuite ce qu'on appelle les consultants. Eux sont dans le benchmarking. Typiquement, les gens qui ont fait le Health Data Hub, c'est des benchmarkers, ils savent rien faire. Ils ont juste dit, voyons l'état du marché. Ah, il semble que Microsoft soit meilleur, on va prendre Microsoft. C'est des gens qui sont apatrides d'un point de vue des données et aussi du logiciel. Et puis, vous avez les communicants, c'est les gens qui sont ni des benchmarkers, ni des builders, mais qui parlent de ce que font les autres. Malheureusement, c'est là dans le monde politique la tendance la plus forte. Donc les gens adorent parler de ce que font les autres, on adore comparer avec ce que font les autres, mais des fois il faut juste savoir faire les choses. Et mon expérience politique m'a montré qu'en fait les gens qui font sont déconsidérés et que les gens qui parlent et les gens qui sont dans la posture sont récompensés. Et puis après, il y a un agenda aussi qui est clair, c'est que cette vision politique actuelle, qui est la vision de la cloud, la cloudification de la France, essentiellement sur Amazon, c'est une vision aussi de destruction de certains services publics, d'algorithmisation de choses qui devraient être liées avec des êtres humains. C'est-à-dire moi je suis totalement opposé à cette idée d'État plateforme. Moi, je pense qu'il faut un État avec des outils qui soient décentralisés et des gens qui aient, grâce à l'outil, la capacité de pouvoir prendre des décisions. C'est ce qu'on n'a pas eu avec les masques, c'est ce qu'on n'a pas eu avec les vaccins. Et la technologie, ben, parler de Mastodon, finalement, la technologie doit permettre cette décentralisation, elle doit permettre l'empowerment des gens. Or, aujourd'hui, la plateformisation, c'est qu'on dit, on prend le savoir-faire de l'élite, on le code en dur dans une plateforme et on sera tous obligés de travailler dans ce monde-là. Or, de la même manière que j'ai pas envie du monde des GAFAM, qui est un monde d'optimisation permanente. J'ai pas envie de ce monde de cette haute fonction publique qui veut cloudifier ses codes et sa vision, à mon avis, centralisatrice à travers le software. Et il faut quelque chose d'autre. Et c'est pour ça que quand je suis arrivé au Conseil national numérique, j'ai compris que cette idée-là était extrêmement minoritaire. Mais la bonne nouvelle, c'est que je crois qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui commencent à se rendre compte que si on travaille que avec des acteurs américains et dans une vision cloud, dans ce cas-là, autant fermer les écoles d'ingénieurs, parce que ça sert à quoi de former les gens si on leur donne pas de boulot dans 10 ans.
Alors, c'est intéressant que tu nous parles justement de cette absence de considération pour ceux qui font, parce que ça fait écho à quelque chose dont on a déjà parlé dans l'épisode précédent. Mais là, ça y est, des salariés d'Alphabet, donc la maison mère de Google, créent un syndicat après des mois et des mois de tensions internes. Et ils le créent en raison de divergences qui se multiplient avec la direction. Et donc, ce syndicat, il ne sera pas affecté qu'à des questions de salaire, de conditions de travail, mais aussi à des problématiques éthiques, selon un des communiqués des fondateurs. Et donc, il y a déjà 226 personnes qui ont fait part de leur intention de le rejoindre. Et je trouvais, il y avait une citation de deux d'entre eux que je trouvais assez intéressante, qui était « Nous avons bâti Google, ce n'est pas la société pour laquelle nous voulons travailler ». Et donc évidemment tout ça intervient dans un contexte, on en avait parlé le mois dernier suite au licenciement de Timnit Gebru, qui est cette chercheuse noire afro-américaine qui travaillait sur les questions d'éthique liées à l'intelligence artificielle et qui a été remerciée, on ne sait pas trop pourquoi, si ce n'est qu'elle n'a pas soumis un rapport qui était suffisamment positif, et on sait qu'il y a eu des mouvements dans ce sens en interne chez plusieurs GAFAM. Est-ce que, d'après toi, Tarek, ça peut venir aussi de là, une certaine prise de conscience des employés, même de ces... Et bon, c'est ce qu'on essaye, nous, un petit peu de faire à notre humble niveau, mais est-ce qu'on a peut-être une porte de sortie aussi de ce côté-là, en se disant que les gens qui travaillent pour les GAFAM vont de moins en moins accepter de faire tout et n'importe quoi?
Ça, c'est une question, hein. C'est une question à laquelle on peut pas vraiment répondre pour l'instant. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis le tech clash. Moi, je pense qu'il y a, à mon avis aussi une, et c'est pour ça, bon, je m'excuse encore de ma longue introduction. C'est que quand j'étais dans les années 90 à San Francisco, on a présenté la cyberculture et le monde qui arrivait comme une forme d'utopie. Alors que si, et je suis sûr que vous êtes des lecteurs assidus de cyberpunk, vous avez dû lire le Neuromancien de William Gibson, qui est sorti d'ailleurs en 1984, ce livre décrivait en fait le monde dans lequel on vit aujourd'hui, un monde où les corporations ont pris le pouvoir, où on extrait les données des utilisateurs, et un monde assez toxique. Et curieusement, tout le problème que notre génération, et j'en fais partie, hein, c'est qu'on a cru qu'on était en train de construire un monde magnifique, un monde plein de possibilités, mais on s'est rapidement rendu compte que c'était un monde plein de possibilités pour une petite minorité. Et la question de l'IA, qui est en plus qui a un autre sujet, c'est que l'IA, c'est aussi une façon, c'est de la nouvelle mondialisation, c'est la nouvelle façon de dire qu'on va optimiser le monde, c'est-à-dire en gros licencier les cols blancs ou licencier une partie des cols blancs dans certaines industries, sans d'ailleurs leur dire par quoi on remplace leur projet de vie. C'est aussi une technologie militaire, ce que même si j'aime pas toujours ce que dit Peter Thiel, notamment sur les femmes, sur l'IA, je trouve qu'il est spot on. Il dit que l'IA, à la fin, c'est une technologie militaire, et que si Google travaille avec la Chine, d'une certaine manière, il travaille avec la Chine contre les États-Unis. Et d'une certaine manière, quand nous, nos écoles polytechniques, la Normal Sup et toutes ces grandes institutions, en fait, finance les GAFAM. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'argent public pour formaliser la radicalisation algorithmique, la défiscalisation et des choses comme ça. Et donc, les États-Unis ont une vision un peu différente. C'est que il y a aussi, vous le savez, avec la cancel culture et la fragmentation algorithmique, parce que c'est aussi ça, la cancel culture, c'est la résultante de l'organisation des réseaux sociaux qui organise les gens par groupe. C'est vrai qu'il y a un vrai problème, mais je pense que la problématique des big tech n'est pas forcément celle que l'on a en Europe. Aux États-Unis, les gens sont mal à l'aise avec le fait que de plus en plus Google va se rapprocher du consortium militaro-industriel. Amazon l'a fait, la surveillance faciale. C'est, en gros, ils vont devenir les clouds de toutes les agences américaines, que ce soit le FBI, que ce soit la Customs Border Patrol. Vous savez, maintenant, la Customs Border Patrol utilise des drones qui sont en fait des anciens drones qu'on utilisait en Irak, mais qui permettent d'analyser 40 000 conversations à la fois. Il y a le geofencing, c'est-à-dire que on prend un espace physique pour une manifestation, on dit on veut tous les téléphones, et ensuite on fait de l'analyse, de crunching, de data. Tout ça, ça se fait sur les clouds de ces plateformes. Mais évidemment, les gens sont inquiets parce que quand il y avait eu la séparation des enfants avec de leurs parents, en fait, Amazon, Salesforce, Microsoft étaient partenaires de ces agences. Et donc, c'est un problème qui est, à mon avis, un peu plus américano-américain. Mais curieusement, ces mêmes gens qui sont contre les biais algorithmiques ne sont pas forcément les premiers à se battre pour, par exemple, la sanctuarisation de la vie privée ou la question des données. Et ça est plus notre débat européen et dans notre sensibilité européenne.
Oui, mais qui a l'air de malgré tout faire réfléchir le reste du monde, puisque on le voyait tout à l'heure avec la position de l'Inde par rapport à WhatsApp, ou le fait qu'en Amérique aujourd'hui, il y a des voix qui disent qu'ils auraient peut-être besoin d'un RGPD à l'américaine.
Donc on va... Oui, absolument. Je crois que le RGPD, il faut quand même le dire, il a un défaut, c'est qu'il a été fait trop tôt, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu la toxicité des réseaux sociaux, notamment le design de persuasion et toutes les choses qui ont la radicalisation algorithmique et tout ça. Mais sur la partie données privées, c'est un succès géopolitique de l'Europe. C'est que l'Europe, comme dans l'alimentation, quand on dit on refuse le transgénique, le poulet au chlore, elle a dit voilà comment on gère les données. Ça ne veut pas dire pour autant que tout le monde la respecte entre nous, mais c'est quand même une très bonne chose qui, d'ailleurs, profite surtout, il faut le dire, aux gros acteurs américains, puisque eux sont évidemment compliant. Et quand tu es une petite start-up, c'est toujours plus compliqué d'être compliant. Il te faut un DPO, il y a quand même aussi toute une bureaucratie à côté du RGPD qui a fait les choux gras de pas mal de cabinets de conseil en Europe.
Les fameux consultants.
Exactement.
Pour revenir au sujet au thème initial là, de la syndicalisation là, est-ce que donc avant on avait en gros l'État tout puissant, ensuite moi en faisant partie m'étais dit l'État en fait au final ça sert plus tellement à rien et finalement c'est les sociétés ou les individus, on est un peu transnational. Bon là on a vu quand même un retour de l'État fort hein, avec le Covid. Et en tout cas pour revenir à la syndicalisation, est-ce que finalement ces boîtes qui étaient en chemin vers l'approche du neuromancer, elles ont pas ce fameux contrepoids qui est mince, si mes développeurs ils se mettent à pas vouloir faire ce que j'ai envie, il y a une limite à ce que je peux faire. Parce qu'en fait, c'est un peu ça qui, alors 200 c'est pas beaucoup mais par à la taille de Google, mais est-ce qu'il y a pas aussi à un moment une révolte de la des gens qui développent ces algorithmes ou qui amènent la valeur à cette société et qui en profitent, hein, parce qu'il y a, c'est quand même, en tout cas pour les gens comme nous, c'est plutôt des bons salaires. Mais est-ce qu'il n'y a pas un contrepoids à un moment, il y a un équilibre qui est en train de se former là, ou s'accélérer?
Je ne crois pas, parce que je pense qu'en fait, les gens qui sont encore chez Facebook et Google savent très bien ce qu'ils font, et s'ils sont là, c'est qu'en fait, il y a cette idéologie hein, dont je parlais de suprémaciste numérique qui consiste à dire finalement tant que les projets techniquement que je fais sont intéressants et fascinants, je m'intéresse à ça, je m'intéresse pas forcément aux conséquences. Et c'est pour ça que je pense que dans le cas par exemple, vous savez que la manière dont le newsfeed a été utilisé en Birmanie a accéléré le génocide des Rohingyas, oui. Que le jour la Cour internationale, l'ICC de la Haye, demandera à des ingénieurs qui ont travaillé sur les algorithmes, puisque mine de rien, c'est aussi ce qu'on sait avec GitHub, c'est qu'on connaît la responsabilité ligne par ligne de chaque ingénieur dans un projet, les mettra dans un procès pour crime contre l'humanité. Là, à mon avis, il y a des gens qui vont commencer à se poser des questions, parce que si on remplaçait Facebook par un grand acteur pharmaceutique, et qu'on se rendait compte que ce qu'ils avaient fait avait pu causer la mort de gens, je pense que ces gens seraient déjà en prison. il se trouve que comme on comprend rien au code, d'une certaine manière, on a eu un pass, comme on dit aux États-Unis, on a un blanc-seing pendant 10-15 ans, et que là aussi se pose la question des activistes, des nouveaux activistes que vous voyez. Il y a Meredith Waltaker qui est l'ancienne de Google, qui avait monté la Google Workout, qui a montré AI Now. Et vous avez des gens qui ont des compétences technologiques cette fois-ci, qui vont commencer à adresser les problèmes. Et moi, je crois que c'est il faut lancer un appel à tous les gens qui écoutent votre podcast, qui sont compétents technologiquement et qui, à un moment donné, doivent aussi s'emparer du sujet et se dire, là, c'est pas normal. Quand on met des plateformes avec des sans sécurité hébergées sur tel ou tel acteur, ou qu'on fasse des choses qui n'ont ni queue ni tête, il faut que les gens puissent, même s'ils ne travaillent pas d'ailleurs pour ces projets, puissent dire c'est pas normal, des projets ne devraient pas être faits de cette manière, voilà les bonnes pratiques éthiques, logicielles en termes d'hébergement, en termes de sécurité informatique aussi, puisque c'est devenu avec SolarWinds un sujet essentiel, et il faut qu'on lève la voix. Aux États-Unis, ils sont sur des problématiques un peu différentes, mais nous, en Europe, il faut en fait aussi que les acteurs des clouds européens et les acteurs qui développent en Europe leur boîte lèvent la voix et disent ça suffit, on va arrêter de faire du n'importe quoi, parce que sinon on se laisse faire et on se laisse aller avec des gens qui sont nommés, qui sont absolument incompétents, et on l'a vu, hein, c'est quand même Peter et son principe depuis l'histoire du Covid, entre stop Covid, les vaccins qu'on a promis, qu'on a commandés, mais en fait on les a pas. On n'a même pas été fichu de préparer les choses en amont. On sait même pas quand est-ce qu'on va sortir de ce truc, alors qu'on pourrait très bien utiliser des tests salivaires. Il y a plein de choses qu'on pourrait utiliser. Regardez Sanofi qui a même pas fichu de faire un vaccin, mais c'est normal puisque depuis 2 ans ce qui se passe à Sanofi est typique aussi de ce qu'on a dans l'innovation tech. Nous, on le sait parce qu'on le voit quotidiennement, des projets où on met des milliards et à la fin il y a juste un logiciel nul criblé de bugs, alors que ça devrait pas être possible des choses pareilles. On a ça dans plein de choses, et en fait toute l'innovation et le financement de l'innovation et la manière dont on l'a fait, c'est-à-dire les gens qui sont en charge de prendre ces décisions, il va falloir véritablement faire un peu de nettoyage et enfin mettre des gens compétents. Parce que je suis vraiment pour une forme de méritocratie. Moi, c'est pour ça que j'aime la tech, c'est que je sais dans quoi je suis bon et je sais aussi dans quoi je suis pas bon. Et j'apprécie les gens qui sont meilleurs que moi dans d'autres domaines. Et s'ils peuvent faire ces choses, et c'est comme ça que c'est pour ça d'ailleurs qu'on aime bien la technologie, c'est apprendre des gens qui sont meilleurs que soi. Sauf que là, on est dans une forme d'entre-soi, et à la fin, on a quelque chose qui est pas bon.
Et tu parlais de SolarWinds. Pour moi, tu vois,
parce que tu peux expliquer, parce que je sais pas si on a parlé dans le podcast et pour les quelques
autres. SolarWinds, c'est une cyberattaque qui a eu lieu contre les États-Unis en 2020, un truc énorme. Et souvent, on dit que
Et l'Europe, on sait pas encore, ouais. Mais l'Europe a sûrement aussi du SolarWinds.
Et en gros, c'est vrai que souvent les scandales, des gros problèmes qui peuvent arriver peuvent justement amener les gens à comprendre en fait les schémas qui sous-tendent des problèmes sous-jacents. Et en fait, ce qui s'est passé, enfin moi, mon sentiment, c'est que sur SolarWinds, ça n'a pas eu du tout l'écho, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, personne n'a été capable de comprendre l'envergure du truc. Ça a été relayé dans des médias. Il y a même des gens du gouvernement qui en ont parlé, mais sans révéler l'ampleur du truc. Donc, je pense qu'il y a un problème, de compréhension globale.
Ça dépend quelle partie tu parles. Est-ce que c'est tu parles de la partie, infiltration étatique, ou tu parles de l'attaque de la supply chain et du coup des boîtes qui devraient sérieusement penser à leur supply chain et de leur vulnérabilité.
Je pense potentiellement aux deux, mais je pense surtout à de la manière dont ça a été. Je crois que c'est pas Cédric Haut, j'ai peut-être dire une bêtise, mais j'ai entendu quelqu'un du gouvernement français parler de ça. Et c'était juste considéré comme un bug, quoi, tu vois. Alors pour moi, ouais. L'envergure de ce truc-là est énorme, énorme. Et en fait, Tariq, tu parlais de l'ignorance de certaines personnes qui sont à des places où ils devraient comprendre plus ce qui se passe. C'est typiquement, pour moi, SolarWinds, c'est typiquement ça.
Ouais, en même temps, tu sais, en France, t'as l'ANSSI qui est quand même assez bonne sur ces questions, qui est dirigée par l'excellent Poupard, qui a réagi. Mais fondamentalement, ce qui est fascinant, et c'est ce que tu viens de dire justement sur la supply chain, je trouve ça très intéressant, Parce que quand tu regardes le 737, là, le Boeing Max, qui a, où tu découvres, en fait, que le logiciel était fautif, il a été fait payer $15 de l'heure en Inde, que SolarWinds, c'est une boîte en Biélorussie ou je sais plus, en Pologne, qui travaille là-dessus. Et en fait, tu te rends compte qu'à la fin, les projets deviennent du grand n'importe quoi.
Pour SolarWinds, tu parles de JetBrains, c'est ça?
De JetBrains, exactement. Ouais. Exactement. Et du fait que fondamentalement, sur des sujets clés, tu es dans des logiques tu dépenses 200 pour le PowerPoint et tu dépenses 50, enfin, tu donnes l'aumône aux développeurs qui vont le faire et tu passes souvent par des agences qui ensuite recrutent qui elles peuvent dans un coin, alors que soudain, tu te rends compte que le projet est stratégique. Donc, il y a aussi une forme de déconsidération du logiciel et des développeurs, enfin, de la qualité qui est essentielle à un produit, parce que sur le long terme, en fait, on est rentré dans une logique où, en fait, on accepte une forme de, j'allais dire, une forme de médiocrité, c'est-à-dire qu'on accepte une forme de décentralisation médiocre, même si, au départ, c'est pas ce qui est prévu, parce qu'à un moment donné, comme tout le monde veut tout faire et qu'on veut faire des trucs géants en permanence à tous les moments, à toute vitesse, à un moment donné, on a perdu le sens de ce qu'est des vraies priorités, de là où il faut vraiment investir du temps et ce qui est accessoire. Il vaut mieux vivre dans un monde où il y a moins de features, mais les choses marchent bien et les gens qui les font ont le temps d'être considérés, que de se retrouver dans une espèce de monde où on te fait croire en permanence qu'il y a des nouveaux trucs fantastiques et à la fin, tu te rends compte que les choses de base ne marchent pas. Le site de santé.fr, pour les vaccins, le truc, on a l'impression qu'il y a pas de DNS, le site est cassé. On sait même pas mettre un cache ou même configurer un Cloudflare. Tu te dis, mais c'est inacceptable. C'est-à-dire qu'un stagiaire ne serait pas dans n'importe lesquelles des boîtes que tu as ne ferait pas un truc pareil. C'est une question même d'honneur. Tu peux pas lancer un truc et ne pas avoir. C'est fou, quoi. Moi, ça me met un peu en rogne tout ce que je vois depuis quelque temps, parce qu'en fait, t'as vraiment l'impression que les gens n'en ont rien à faire. Mais c'est pas important.
Moi, ce qui me fait le plus mal là-dedans, c'est que globalement, tu as résumé avec une pertinence pas croyable mes 5 années de start-up française. Mais vraiment, hein, le côté où on n'investit pas sur la qualité, on n'a pas beaucoup de considération pour les faiseurs, on est plus, effectivement, on va plus donner de voix au marketing et aux commerciaux, et on va vendre sans cesse des nouveaux trucs, mais sans consolider au moins une base existante correcte. Enfin, c'est mes 5 années de start-up, hein.
Ouais, mais moi, sur les startups, j'ai toujours tendance à, comme je sais que c'est très dur, donc je suis bien placé pour le savoir, et qu'il y a des boîtes en France top, des gens top. Après, il y a plein de trucs fumeux, ça je te concède allègrement, mais c'est juste que c'est juste qu'à un moment donné, l'État, mais aussi les collectivités locales et les acteurs privés doivent définir un certain niveau de qualité. Et aujourd'hui, une partie des gens pensent que la qualité, c'est que les US et que nous, on est des nuls. Et une autre partie qui dit, je vais travailler avec l'informatique à papa et à la fin, on a des projets indigestes et qui permettent à l'autre génération de gens qui pensent qu'on est nuls de se dire, bah, vous avez vu, on ne sait pas faire, Chorus. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. C'était Guy Mamoumani qui a fait le Health Data Hub, donc a été l'architecte de la mise en œuvre sur Microsoft, qui me disait « Oui, mais tu peux pas dire ça, on n'a pas le temps. » Avant, on utilisait Chorus. Il y avait les projets Chorus qui était un projet de pay qui était une espèce de désastre informatique qui est un peu considéré comme le désastre des désastres. Je lui dis « Certes, mais Chorus a été fait par des gens qui s'en fichaient complètement, espèce de truc codé au kilomètre. » Et entre le cloud, où en gros, on fait plus rien, il y a quand même un juste milieu où tu embauches juste les bonnes personnes. Et tu prends les petites agences. Alors, c'est vrai que c'est des risques de travailler des petits. Mais à la fin, si tu veux que les petits deviennent moyens, en termes de taille moyenne plutôt, ben, pas moyens en termes de qualité, il faut que les gens, on leur donne à manger et on leur donne à peu près… Parce que l'État, d'un côté, c'est ce que je dis souvent, l'État subventionneur t'aide et l'État acheteur te tue. C'est-à-dire qu'en fait, on te dit, c'est super. Ah, vous avez un logiciel libre. Super, on va vous aider. Et puis après, ah non, mais nous, on peut pas utiliser ça parce que vous comprenez si et ça et ça et ça. Et donc, en fait, on est dans une situation où tu n'es pas capable de mettre en avant tes productions et tu te retrouves à avoir tes premiers clients à l'étranger, ce qui est complètement dingue.
Mais ça, c'est pas un problème du, enfin, c'est le problème du code des marchés publics, c'est ça? Enfin, en partie, en tout cas.
Oui, puis déjà en face, c'est qu'à un moment donné, il faut, quand t'es un builder, quand t'es une âme de builder, t'es prêt à prendre des risques. Alors, tu prends des risques calculés, évidemment. Tu vas pas prendre une équipe qui sort de nulle part à leur donner le projet le plus important de ta vie. Mais en même temps, quand tu regardes la manière dont Stop Covid ou tous ces produits ont été faits, t'aurais pu très bien dire, on fait une demande à des ingénieurs, on demande à des boîtes, parce que je vous rappelle le contexte, on sait pas où on est, c'est la fin du monde. Quels sont les meilleurs data scientists, meilleurs développeurs, meilleurs designers? Est-ce que ça vous dit de nous aider pendant 3 mois à faire un vrai dashboard où on a toutes les infos? Mais il se trouve que Guillaume, là, qui fait Covid Tracker, il l'a fait tout seul dans son coin. Et c'est bien plus lisible, évidemment, que l'espèce d'infâme bouillie que tu as sur le site coronavirus, qui est un souci du souci de je sais pas quoi, de gouvernement, où en fait les trucs ne sont même pas calibrés, ne sont même pas responsives. Enfin, tu te dis, ça a été fait avec les pieds. Et de faire des choses de qualité et de travailler avec des petites équipes, parce que je crois pas au fait que tu aies besoin d'énormément de gens pour faire des produits de qualité, et d'aller voir tous les acteurs français, Scaleway, OVH, Outscale, Clever Cloud, Scale & Go, et puis j'en oublie plein, Rapid Space et autres, qui leur dire, on a besoin de vous pour l'hébergement, voilà nos specs, voilà comment on veut qu'on ça marche, voilà le budget qu'on a, aidez-nous. Et en fait, si tu crées cette cohésion, cette espèce d'écosystème vertueux, tu prends des éditeurs de logiciels libres, tu prends des fondations de logiciels libres, tu prends des développeurs de logiciels libres dans leur coin et tu leur dis, venez nous aider, voilà l'architecture de ce qu'on veut monter, tu peux construire quelque chose d'intéressant. Pour l'instant, c'est pas ce qu'on fait, c'est qu'on espère d'expliquer en fait que tout ça n'est pas possible, mais que si on se plug sur les API de Microsoft, et derrière ça, je veux pas dire que Microsoft est nul, hein, au contraire, je pense que c'est très bien, mais c'est un truc clé en main. Or, quand on doit faire des choses en France, on doit faire du custom. C'est comme ça, c'est l'État. L'État n'achète pas un truc clé en main d'un autre État ou d'une autre boîte, il fait quelque chose qui marche pour ses citoyens. Et c'est ça qu'on ne fait pas depuis, j'ai l'impression, depuis au moins 15 ou 20 ans, quoi. Et ça s'est accéléré, il faut le dire, avec ce gouvernement qui, lui, clairement, te dit la stratégie IA, c'est McKinsey, la stratégie vaccin, c'est Bain, ou l'inverse, je sais plus. Et nous, on est là, tous les gens compétents qui regardent tout ça devant eux se disent, mais c'est pas possible. Pourquoi on en est arrivé? Comment on a fait pour en arriver là?
Eh bien, je pense qu'on peut conclure. Personnellement, je vais aller me servir un grand verre de rhum, hein, pour remonter.
Non, alors, je vais vous amener une dernière remarque. Je suis, je suis un peu en colère par rapport à ça. Enfin, en colère, c'est que, à un moment donné, je pense qu'on a un peu marre un, de se faire traiter nul, deux, de voir que des projets qui sont mal faits, et trois, de se dire que tous les gens talentueux qu'on connaît ne travaillent pas. Quand je pense qu'il devait y avoir l'un des créateurs de Scikit-Learn, au conseil scientifique et qu'on a mis quelqu'un qui n'est clairement pas du niveau des gens de Scikit-Learn à la place, mais qui est un très bon copain du ministre et de je ne sais qui, de ce quoi, je me dis qu'en fait, la voie d'avenir, elle est tracée. C'est mettre des gens compétents, mettre des gens qui ont une empathie par rapport au code et par rapport au savoir-faire et trouver les moyens de reconstruire notre infrastructure, de construire une infrastructure numérique qui soit humaine, qui soit proche des gens, qui soit décentralisée, qui soit s'appuie sur du logiciel libre et sur les talents locaux. C'est exactement ce qu'on fait dans l'agriculture. Quand tu regardes les filières bio où les gens s'organisent maintenant pour faire des trucs super géniaux, moi, habitant à Paris, le nombre de boulangers qui utilisent ce qu'on appelle les farines anciennes qui font du pain, mais fantastique. Il y en avait quoi? Il y en avait 5 il y a 10 ans. Maintenant, il y en a à tous les coins de rue. En France, t'as des rayons bio, des producteurs locaux. C'est-à-dire que ce qui s'est passé dans cette industrie où à un moment donné il y a eu un nouveau désir de qualité, qu'on arrête le bullshit et les trucs pipo bimbo, en gros les trucs qu'on achetait en supermarché avec des packagings qui avaient l'air sympas mais derrière les produits étaient juste pas bons, eh ben il faut qu'on arrive à nous collectivement à ce que les gens du numérique qu'on bascule et que c'est pour ça que je suis plutôt optimiste, même si je donne un jugement assez dur. Une fois que ce jugement est passé, je me dis, il faut qu'on a les moyens. Et c'est pour ça qu'il faut que je pense que beaucoup d'ingénieurs et de développeurs s'engagent aussi en politique pour faire changer les choses, parce que sinon, on n'aura que des gens qui comprennent rien à ces positions.
Écoutez, je crois qu'il y a une petite élection qui se profile l'an prochain. Bon,
c'est pour ça qu'on va sortir de chez soi. Hein.
Attends, 2022. Bon, eh ben, écoute, Tariq, merci beaucoup. Merci énormément de nous avoir accordé ce temps voilà, d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions. Ce fut un grand plaisir. J'espère que nos auditeurs prendront autant de plaisir à nous écouter que nous, on a eu à t'interviewer.
Merci, puis j'espère que, désolé pour cette longue, j'allais dire entrée en matière, mais j'espère avoir en fait.
Ouais.
Mais je pense que ça aidera les gens à comprendre pourquoi on a fait appel à toi pour cet épisode, pourquoi on voulait que ce soit toi, parce que justement, ça faisait écho à plein de problématiques que tu as rencontrées dans ton parcours professionnel.
Oui, et puis je voulais juste lancer un appel, bon, c'est à la fois sur Twitter à Tariq Rim, mais pareil sur tous les sujets qui nous intéressent, que ce soit le Health Data Hub, que ce soit l'usage du logiciel libre, la considération des développeurs. Je pense qu'il y a plein de choses à construire et je vais essayer cette année de pousser ces sujets, mais effectivement, il faut qu'on se mobilise tous ensemble, chacun de notre côté, pour que s'assurer que ces sujets soient perçus avec le degré de sérieux et d'urgence qu'ils méritent. Voilà.
Beau mot de la fin.
Exactement. Ouais. Eh bien, merci beaucoup. On essaiera de te réinviter parce qu'on a tellement de choses à se dire que je crois qu'on peut faire une série d'épisodes Tariq Rim sans problème.
Pas dans 6 ans.
C'est vrai. En tout cas, merci. Moi, je suis toujours heureux de venir. C'est vrai que là, on s'est vu à un moment où il y a eu beaucoup de choses à dire. C'est un moment que j'avais pas exprimé sur ces sujets. Mais en même temps, il y a des lueurs d'espoir. Et je pense que là, les 10 ans qui viennent, c'est une période vraiment fantastique pour changer la donne. Et de toute façon, je serais ravi de revenir et puis ravi aussi de soutenir, enfin, tout ce que vous faites, puisque je trouve que vous faites vraiment un travail très important.
Merci beaucoup.
Merci.
Eh bien, chers auditeurs, on se dit à bientôt avec un nouvel épisode News. Et puis, encore merci Agnès, Emmanuel, Tariq de votre présence.
Ben, merci à toi, Audrey,
de
préparer les trucs.
À bientôt.
Au revoir.
Allez, ciao. À la prochaine.
Au revoir.
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthemes.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.